Chapitre 41. À César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Une chose n'appartient pas à César, du seul fait qu'il la demande. Les droits de César sont limités par les droits prioritaires de la personne. Article de Louis Evan, paru dans Verdemain du 15 décembre 1960. C'est pour tendre un piège à Jésus, cherchant à le faire prononcer un discours compromettant, que les pharisiens lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens, partisans de la politique de Rome, lui poser la question « Est-il permis ou pas permis de payer le tribut à César ?» Matthieu chapitre 22, verset 17. Le tribut, différent de nos impôts de citoyens libres, avait un caractère d'assujettissement. C'était la contribution imposée par un vainqueur à un vaincu. Rome avait conquis la Palestine par les armes. Notre Seigneur commença par démasquer le jeu des envoyés. « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Puis s'étant fait montrer la monnaie du tribut, sur laquelle était l'effigie de César, il leur dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Ratatinement. Le but ordinaire de ceux qui citent cette phrase, c'est d'appuyer sur le devoir de payer les taxes, les impôts. Ils le font avec, même, beaucoup d'éloquence. La plupart du temps, d'ailleurs, ils s'arrêtent à la première moitié de la phrase, ce qui concerne César. L'autre, concernant ce qui appartient à Dieu, passe dans l'ombre, tellement César occupe de l'importance, de la place, du temps dans leur discours. Et même dans cette première partie de la citation, il est plus que rare d'entendre faire remarquer le caractère limitatif des mots « ce qui appartient à César ». Limitatif parce que tout ne lui appartient pas. Apparemment, d'après les prédicants de l'impôt, il faudrait donner à César tout ce qu'il demande. Or, les Césars ont communément l'habitude d'avoir beaucoup d'appétit, sans trop se soucier de savoir s'il n'y a pas des choses qui sont dues à ceux qui le pressurent. César, bien entendu, c'est le gouvernement. Ou mieux, les gouvernements, car on a autant de Césars qu'il y a d'échelons dans la structure politique du pays. Au Canada, César municipaux, César provinciaux, César fédéraux. En attendant qu'on nous afflige un César supranational à juridiction mondiale pour couronner la pyramide. Mais est-ce qu'une chose appartient à César par le seul fait qu'il la demande? Limite au pouvoir de César. Rendre à César ce qui appartient à César ne doit pas être invoqué pour autoriser César à prendre ce qui ne lui appartient pas, ni pour lui permettre d'enlever au peuple ce qui appartient au peuple pour le passer à Mammon. Or, le gouvernement, tous les gouvernements, aujourd'hui commettent ces deux fautes-là. S'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut d'abord, et avec plus de scrupules, laisser à la personne ce qui appartient à la personne. Laisser à la famille ce qui appartient à la famille. La personne a priorité sur toutes les institutions financières, économiques ou politiques. Priorité sur les gouvernements eux-mêmes. On ne saurait trop le répéter, tellement l'idée contraire prévaut généralement dans la pratique. La personne humaine doit être placée au premier rang des réalités terrestres, nous dit Pie XI dans l'encyclique Divini Redemptoris. C'est la personne humaine que Dieu a placée au fait de l'univers visible, la faisant, en économie comme en politique, la mesure de toute chose. Pie XII, lettre au président des Semaines sociales de France, le 14 juillet 1946. La personne naît dans une famille. Elle est élevée dans une famille. La famille est la seule société temporelle établie directement par Dieu. C'est d'ailleurs la cellule du corps social. Lorsqu'un César, le César municipal, enlève à une famille la maison où elle élève ses enfants, pour la seule raison que cette famille n'a pas assez d'argent pour payer ses taxes, ce César-là vole cette famille d'un bien à elle, dont elle a besoin pour la vie normale des personnes qui la composent. César se fait voleur. De même, lorsqu'un César, provincial ou fédéral, par ses impôts, par ses taxes, directes ou indirectes, tranche dans le revenu nécessaire à la vie d'une personne, d'une famille, ce César-là vole la personne, la famille, d'un bien qui lui appartient. César se fait voleur. César n'a pas ce droit-là. Il ne lui est pas permis de vivre aux dépens de la vie normale de la personne, au détriment de la vie de la famille, cellule de la société. C'est porter atteinte à la santé de la société elle-même. De par sa fonction propre, César doit, au contraire, protéger les droits et les biens des personnes, des familles. La part de César. Mais il faut tout de même rendre à César ce qui appartient à César. Oui, lui accorder non pas tout ce dont il veut ou peut s'emparer, mais ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui appartient à César? Nous croyons pouvoir définir ainsi. Ce qui est nécessaire à César pour accomplir ses fonctions. Cette définition semble admise implicitement par César lui-même, par le gouvernement, quand il dit à ceux qui se plaignent du fardeau des impôts, « Plus le peuple demande de choses au gouvernement, plus le gouvernement a besoin de moyens pour l'accomplir. » C'est vrai, mais pour accomplir ses fonctions propres, César ne doit pas recourir à des moyens qui empêchent les personnes, les familles d'accomplir les leurs. D'ailleurs, César est toujours tenté, pour accroître son importance, de s'emparer de fonctions qui sont bien plus du domaine des familles, des organismes inférieurs, que du sien propre. Puis, encore, les citoyens recourraient bien moins à César, si César commençait par supprimer un obstacle que lui seul a le pouvoir de supprimer. L'obstacle artificiel créé par un système financier en désaccord avec les immenses possibilités de satisfaire les besoins matériels normaux de tous les individus, de toutes les familles du pays. Parce qu'il n'accomplit pas ce redressement que lui seul peut accomplir, César sort de son rôle, accumule des fonctions, s'en autorise pour imposer des charges lourdes, parfois ruineuses, aux citoyens et aux familles. Il devient ainsi l'instrument d'une dictature financière qu'il devrait abattre, et l'oppresseur de citoyens et de familles dont il est censé protéger la vie et les biens. La vie de l'individu n'appartient pas à César, mais à Dieu. C'est un bien sur lequel Dieu seul a droit, que personne, pas l'individu lui-même, n'a le droit de supprimer ni de raccourcir délibérément. Et si César, par ses exactions, coupe la vie d'un individu, s'il le place dans des conditions qui abrègent ses jours, alors César prend ce qui ne lui est pas dû, ce qui appartient à Dieu. La personne et la famille sont une création de Dieu, que César ne doit ni détruire ni s'approprier, dont il doit au contraire protéger l'intégrité et les droits contre quiconque cherche à y porter atteinte. Devant les besoins de César. Mais César a tout de même des fonctions à accomplir qu'on ne peut songer à confier à des particuliers. Il a des services et des biens matériels qu'on ne peut bien obtenir que de César. Disons par exemple, une armée pour défendre le pays en cas d'attaque, une police pour maintenir l'ordre contre ceux qui voudraient le troubler, la construction de routes, de ponts, de moyens publics de communication entre les diverses agglomérations du pays, Il faut bien fournir à César les moyens de rendre ses services et de procurer ses facilités à la population. Certainement, mais de quoi César a-t-il besoin pour y pourvoir? Il a besoin de ressources humaines et de ressources matérielles. Il a besoin de pouvoir employer des hommes et utiliser des matériaux, des forces motrices et autres moyens de production. César a besoin d'une partie de la capacité de production du pays. Et dans un régime démocratique, c'est aux représentants attitrés du peuple qu'il appartient de déterminer quelle part de la capacité de production du pays pourra être dérivée vers les besoins de César. Si l'on veut bien penser ainsi en termes de réalité, on admettra qu'il n'y a aucune difficulté à accorder à César une partie de la capacité de production du pays, tout en laissant à la disposition des besoins privés une capacité de production capable de répondre abondamment à tous leurs besoins normaux. Employons le mot « taxer » dans son sens non rétréci de « mettre à contribution ». On pourra dire que les besoins privés, comme les besoins publics, taxent, mettent à contribution la capacité de production du pays. Quand je demande une paire de chaussures, je taxe la capacité de production de chaussures. Quand le César provincial fait construire un kilomètre de route, il taxe la capacité de production de route pour une longueur d'un kilomètre. Avec la capacité moderne de production, il ne semble pas que la construction de routes nuise à la fabrication de chaussures. C'est quand on cesse de considérer la situation en termes de réalité, pour s'exprimer en termes d'argent, que les difficultés commencent. La taxe prend alors un autre aspect et porte sur un autre endroit, sur les porte-monnaies. Si César taxe mon revenu de 60 $ pour contribution pour sa route, alors il m'enlève l'équivalent d'une paire de chaussures pour faire sa route. Pourquoi cela? Parce que, alors que la capacité de production du pays pouvait lui fournir sa route sans m'enlever ma paire de chaussures. Pourquoi? Parce que le système d'argent fausse les faits. Mais il faut bien que César paie les hommes qu'il emploie. Il faut bien qu'il paie les matériaux qu'il achète d'un producteur de matériaux. Assurément. Mais en définitive, qu'est-ce qu'il fait quand il dit paie, disons, 400 $ à un ingénieur? Il donne à cet ingénieur le droit de demander pour 400 $ de produits ou de services à la capacité de production du pays. Est-il nécessaire pour satisfaire les besoins de l'ingénieur de me priver du droit à une paire de chaussures? La capacité de production du pays ne peut-elle pas répondre aux besoins de l'ingénieur sans diminuer la production de chaussures? Tout est là. Tant que la capacité de production du pays n'est pas épuisée, il n'y a nullement besoin de taxer le secteur privé pour subvenir au secteur public. Or, la capacité de production du pays est loin d'être épuisée. Quand le problème du jour est justement de trouver des emplois pour des bras qui s'offrent et pour des machines en attente. Si les moyens de paiement créent un problème, c'est parce qu'ils ne correspondent pas aux moyens de production. Les permis de tirer sur la capacité de production sont très inférieurs à la capacité de production disponible. Cette pénurie de permis est une situation injustifiable. Surtout quand le système d'argent est, comme aujourd'hui, un système de chiffres, une comptabilité. Si la comptabilité monétaire ne correspond pas à la capacité de production, ce n'est pas la faute des producteurs, ni de ceux qui ont besoin de la production. Ce sont les contrôleurs de l'argent et du crédit financier qui rationnent les permis en face d'une capacité de production non utilisés, ils ne demandent pas mieux que de servir. Les citoyens ne peuvent pas eux-mêmes corriger cette déformation des réalités par le système financier. Mais César, lui, peut le faire, puisqu'il est César puisqu'il a la charge et le pouvoir de veiller au bien commun, il peut et il devrait ordonner aux contrôleurs du système financier d'accorder leur mécanisme au réel. Tant que César refuse ce redressement, il se fait le serviteur, l'instrument de la dictature financière. Il déchoit de ses fonctions, et les impôts qu'il demande au terme de cette fausseté financière ne lui sont pas dus. La taxation moderne est un vol légalisé, a bien dit Douglas. César n'a pas le droit de légaliser un vol. Personne ne refuse à César de taxer la capacité de production du pays pour les besoins publics, tant du moins qu'il ne prendra pas une telle part que la part restante ne pourrait plus suffire à la demande des besoins privés. Et encore une fois, les parlements sont là pour y voir. Malheureusement, les parlements aussi en sont venus à borner leur vision aux limites posées par le système d'argent. Si toute la capacité de production du pays était représentée par une capacité financière équivalente entre les mains de la population, oh, alors on pourrait de quelque manière empêcher la population de l'employer entièrement pour ses besoins privés, afin de ne pas priver César de ses nécessités. Et encore, même alors, il faudrait que cela se fasse sans priver les personnes et les familles de leur part à une quantité suffisante au moins pour leurs besoins essentiels. Nourriture, vêtements, logement, chauffage, soins médicaux. Répétons-le, ce n'est pas le cas. Non seulement la capacité de production du pays n'est que partiellement utilisée, mais, collectivement, la population n'est même pas capable de payer tout ce qu'elle produit. Les dettes privées, industrielles et publiques en sont la manifestation évidente. Mammon. Cette somme de dettes pour de la production réalisée, plus la somme de privations causées par la non-production due à un défaut d'argent, représente le sacrifice exigé par la dictature financière, par Mammon. Or, Mammon n'est pas un César légitime. On n'a rien à rendre à Mammon, parce que rien n'appartient de droit à Mammon. Mammon est un intrus, un usurpateur, un voleur, un tyran. Et Mammon est devenu le souverain suprême au-dessus de César, au-dessus des plus puissants Césars du monde. César est devenu l'instrument de Mammon, percepteur de taxes pour Mammon. Si César a besoin d'une partie de la capacité de production du pays pour accomplir ses fonctions, il a aussi terriblement besoin de surveillance, et il doit être réprimandé lorsqu'au lieu d'être un instrument au service du bien commun, il s'est fait le serviteur, le valet de la tyrannie financière. Le grand désordre moderne, qui s'est développé comme un cancer formidable pendant que de merveilleux progrès dans la production auraient dû affranchir les hommes des soucis matériels, c'est qu'on a tout référé à l'argent comme à une réalité. C'est d'avoir laissé à des individus le droit de réglementer les conditions de l'argent, non pas en comptable de la réalité, mais en fonction de leur propre profit et de la consolidation de leur pouvoir despotique sur la vie économique tout entière. L'argent naît avec la production. Il est une autre occasion, moins citée et pourtant bien intéressante, où Jésus eut affaire avec l'impôt. Et cette fois-là, il ne s'agissait pas d'un tribut au vainqueur, mais d'un impôt établi par la nation juive elle-même, en Matthieu chapitre 17, versets 24 à 36. Les percepteurs de cette taxe vinrent trouver Saint-Pierre et lui demandèrent, « Votre maître, Jésus, ne paie-t-il pas le 10 drachmes de l'impôt? Jésus dit à Pierre, va à la mer, tire le premier poisson qui montera, ouvre-le, tu trouveras dans son ventre un statère, et tu le donneras au percepteur pour toi et pour moi. Pierre, pêcheur de son métier, se tira très bien d'affaire. Cette fois-là, l'argent naquit avec la production. Le gouvernement ne peut faire de miracles, mais il peut très bien ordonner le système monétaire de sorte que l'argent soit basé sur la production, en rapport avec la production. Faire chiffrer la capacité de production du pays et faire chiffrer en conséquence les moyens de paiement pour les deux secteurs, privé et public. Ce serait plus conforme au bien commun que d'abandonner ce contrôle de l'argent et du crédit à l'arbitrage des grands prêtres de Mammon. Les contrôleurs de l'argent et du crédit sont devenus les maîtres de nos vies et personne ne peut plus respirer sans leur permission. Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno. En notant seulement qu'ils le permettent. Nous refusons cette dictature implacable de Mammon. Nous condamnons la déchéance de César. Nous ne reconnaissons pas à un César déchu de ses nobles fonctions le droit de dépouiller les individus et les familles pour Mammon, ni pour se conformer aux règlements à base de cupidité et de fausseté de Mammon. La dictature de Mammon est ennemie à la fois de César et de Dieu. De la personne humaine créée par Dieu, de la famille instituée par Dieu. Les créditistes travaillent à libérer de cette dictature. En même temps, ils se trouvent à travailler pour libérer César de son assujettissement. À ce titre, les créditistes sont à l'avant de ceux qui, dans le concret, sur la terre des hommes, veulent rendre à César ce qui lui appartient. À la personne créée à l'image de Dieu, ce qui lui appartient, à la famille instituée par Dieu, ce qui lui appartient, à Dieu, ce qui appartient à Dieu.